Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle de découverte d'un livre à travers la lecture d'extraits choisis par Catherine ou Hervé. Il s'agit de vous mettre dans l'ambiance du livre, de vous le faire apprécier et de vous donner envie de le lire à votre tour pendant que vous êtes confortablement installé chez vous, dans votre canapé. Et donc je disais que c'est une fois Hervé, une fois Catherine, aujourd'hui c'est Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Eh bien, que vas-tu nous lire aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi un écrivain, journaliste, critique d'art, peintre, dessinateur, qui est considéré comme l'un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle.
Né tout en, ça à la fois.
Né en 1906, mort en 1972, non, rien.
Oui, mais moi, je alors, connais la réponse. Donc.
Bon, alors, il a écrit... Alors, si je dis son plus grand succès, c'est Le désert des Tartares.
Oui, là, après, un peu plus.
Hein. Dino Buzzati.
Dino Buzzati.
Buzzati. Alors, j'ai choisi donc des nouvelles. Il faut savoir qu'il en a écrit énormément. Mais là, les nouvelles que j'ai choisies sont toutes extraites d'un de ses recueils qui s'appelle Le cas.
Un livre tout jeune, n'est-ce pas ?
Ah, tout jeune. Il a dû paraître en 1966.
Voilà.
On le trouve en poche, pocket. Dernière parution, je crois que c'est 2002. Tu vois.
Oui. Et de toute façon, c'est indémodable. C'est
voilà,
de la grande littérature.
Voilà, voilà.
Allez, on y va ?
On y va. Quand Stefano eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer, comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. » « Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200-300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stefano et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stefano, qu'est-ce que tu fais là, planté ?» lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir !» Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, dit l'enfant. » Et qui nous suit ? J'ai beau avoir 40 ans, dit le père, je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue-vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dis, papa ! » « Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut. Jusqu'au moment où il réussit à le dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. C'est une blague que tu me racontes, papa. Non, non, je n'avais encore jamais vu ce monstre, mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer spasmodiquement, ces dents terribles. Stefano, il n'y a plus de doute possible, hélas. le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage. Pour quelque raison que ce soit, tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas, qui croisait lentement de long en large et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoyait étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et dans le fond ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fût vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas, et pourtant il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et arriva à l'âge d'homme, trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premières amours, la vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait comme un mirage à la fois funeste et fascinant, et au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomber, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squale, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mer pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stefano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grain, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation, il le savait, mais justement pour cette raison, peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher. Et personne à bord n'apercevait le monstre, si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien là de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, nous voyons absolument rien, pourquoi ?»« Oh, je sais pas, il me semblait... »« T'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du fer. « Pourquoi riez-vous ? Pourquoi touchez-vous du fer ?»« Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas, et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stefano ne réfléchissait pas, la menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta de moitié avec un associé un petit caboteur. Puis il en fut bientôt le seul patron et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port après de longs mois de mer que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre, rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il l'était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promit. Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qu'il écoutait bouche bée l'histoire du cas qui avait continué de le suivre pendant presque 50 ans inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoignée. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. » Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa après s'être fait remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre, annonça-t-il. Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coups de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, dit Stefano, et maintenant à nous deux. » Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. « Bouh !» mugit d'une voix suppliante le cas. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis recrue de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager, et toi qui fuyais, fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. » Compris quoi ? Fit Stefano piqué. Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Et le squale tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stefano la prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas !» dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié ! J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. » Adieu, mon pauvre homme, répondit le cas. Et il plongea à jamais dans les eaux noires. 2 mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur un écueil abrupt. Elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombeur, Kalourbra, Kalanga, Kalou, Balou, Chalungra, les naturalistes, fait étrange, l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas.
Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bout voir les filles en troupeau. Mais elle rêve d'amour, et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara et déjà capitaine au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la jeune Consuelo. Mais elle parle d'amour, et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, maintenant commandant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg boire avec Don Pedro. Il boit à mes amours et moi à ses chevaux. Je m'appelle Zangara, je suis vieux colonel au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la veuve de Pedro. Je parle enfin d'amour, mais elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, hier trop vieux général, j'ai quitté Bellanzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros.
Chasseur de vieux. Roberto Saggini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar tabac encore ouvert. On ne sait trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. « Une minute, je reviens tout de suite, » dit-il à la jeune femme assise près de lui. C'était un beau brin de fille. À la lumière des réverbères, au néon, son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai, l'air printanier était tiède et vif à la fois. Toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta ses cigarettes. Comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face, d'une rue latérale, ou bien de ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte ? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit se signalent, tirés de leur sommeil, des quartiers entiers, et les gens frissonnants se pelotonnaient encore plus dans leur lit, en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'est à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à deux fois avant d'aller se promener en milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux, et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et c'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominées par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur, qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand il parvenait à en attraper un, il le bourrait de coups de pied, il lui arrachait ses vêtements, le fouettait, le peinturlurait de vernis et puis l'abandonnait ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, il dépassait la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes, cet éternel tourment qui depuis des millénaires s'était résolu sans drame de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait, ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux, qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'à leur tenue par les patriarches. L'âge est un crime, tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes devant lesquelles l'autorité inquiète à son tour fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin de leur feu s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'était surtout les vieux en compagnie de femmes jeunes qui étaient visés. Alors, la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté et roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto Saggini mesura le danger. Il se dit « J'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir. » « Sylvia, Sylvia » cria-t-il. « Démarre, dépêche-toi, vite, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui. Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez, ouvrez » supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir. Personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairés par les réverbères puissants, 7 ou 8 types convergeaient vers lui sans même courir tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu », pensa Saggini. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus d'une 50aine de vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À gauche, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où s'était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à arriver sans encombre jusque-là. Après, dans le fouillis des boutiques, des caravanes, ce serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile. Et il vit du coin de l'œil une gamine courtaude qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle aussi portait un pull-over avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant et une bouche large qui criait « Arrête-toi, vieux cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La gamine lui tomba dessus, mais l'homme, porté par son élan, la renversa et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, sa Jenny, avec tout le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient les plus épaisses, et les autres toujours derrière lui. « Ah, il veut nous échapper, le salaud !» s'écria Sergio Regora, qui ne se pressait pas outre mesure, convaincu de tenir déjà sa proie. « Et il ose nous résister, par-dessus le marché !» Sa bande galopait à côté de lui. « Oh, chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose !» Ils étaient arrivés devant la foire, ils s'arrêtèrent. « T'as besoin de me dire ça maintenant ? Bah, je voudrais bien me tromper, mais j'ai l'impression que ce type-là, c'est mon paternel. »« Ton père, ce salaud ?»« Ouais, on dirait bien que c'est lui. Bah, tant mieux !» Mais je... Oh, tu vas pas la ramener maintenant, non ? Ben, c'est que ça me paraît...
Quoi ? Tu l'aimes ?
Oh, ça non, alors. C'est un tel imbécile. Et puis un enquiquiteur de première. Il n'en a jamais fini.
Alors ?
Ben, ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir.
T'es qu'une andouille, un froussard, une lavette. T'as pas honte ? Le coup, c'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure que ça me ferait jouir. Allez, allez, maintenant, c'est pas tout, hein. Il faut le faire sortir de là.
Le cœur battant, essoufflé par sa course, sa Jenny s'était camouflée en se faisant le plus petit possible devant une grande banne, peut-être celle d'un cirque, complètement dans l'ombre, tâchant de se fondre sous les pans de la toile. À côté, à 5-6 mètres, il y avait une roulotte de Romanichel avec sa petite fenêtre allumée. L'air fut déchiré d'un nouveau coup de sifflet des jeunes voyous. Dans la roulotte, on entendit un remue-ménage et puis une grosse femme opulente et très belle se montra sur le pas de la petite porte, curieuse. « Madame, madame !» balbutia sa Jenny de sa cachette incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit-elle méfiante. « Je vous en supplie, laissez-moi entrer, je suis poursuivie, ils veulent me tuer. »« Ah non, 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 on veut pas d'embêtement ici. 20 000 lire pour vous si vous me laissez entrer. Quoi ? 20 000 lire ? Non, 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 ici on est des gens honnêtes, nous autres. » Elle se retira, referma la porte, on entendit le bruit du verrou intérieur et puis même la lumière s'éteignit. Silence. Pas une voix. Pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé ? Une horloge lointaine sonna le quart de 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demi de 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 de 2 heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, sa Jenny se releva. Maintenant, peut-être, il allait pouvoir se tirer de là. Soudainement, un de ces maudits lui tomba dessus et leva la main droite en brandissant une chose qu'on ne distinguait pas bien. Sa Jenny, en un éclair, se souvint de ce que lui avait dit un ami, bien des années auparavant. Si quelqu'un cherche la bagarre, il suffit d'un coup de poing au menton, mais l'important est de bondir de toutes ses forces au même moment, en sorte que ce n'est pas seulement le poing, mais tout le poids du corps qui frappe l'agresseur. Sa Jenny se détendit, tandis que son poing rencontrait quelque chose de dur, avec un sourd craquement. « Ah ! gémit l'autre, s'affaissant lourdement sur le dos. Dans le visage contracté et douloureux qui se renversait en arrière, sa Jenny reconnut son fils. « Toi, Ettore ?» Et il se pencha avec l'intention de le secourir. Mais 3 ombres débouchèrent. « Il est là, le voilà ! Tapez-lui dessus, à ce sale vieux !» Il s'enfuit comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le halètement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proche. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement. Il l'avait acculé aux limites de la foire qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, 100 mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance sans être rejoint, et cette manœuvre désorienta même les poursuivants. L'alarme ne fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait déjà atteint la lisière d'un petit bois. « par là, regardez-le, il veut se cacher dans le bois. Allez, allez, su au croulant !» La poursuite reprit. Si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé. Mais combien de temps encore à passer avant ? Les horloges, ça et là, sonnaient les heures, mais dans son angoisse fiévreuse, il n'arrivait pas à compter les coups. Il descendit une colline, déboula dans une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière, mais chaque fois qu'il se retournait et regardait derrière lui, 3, 4 de ses canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Lorsque ses dernières forces... Épuisé, il se jucha péniblement sur le report d'un vieux bastion à pic. Il vit que le ciel, au-delà de la masse des toits, pâlissait.
Mais il était trop tard désormais. Il se sentait complètement exténué. Le sang coulait à flots de sa joue balafrée et Récora était sur le point de la rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se trouvèrent face à face tous les deux sur l'étroite arête herbeuse. Régora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, sa Ginny fit un pas en arrière, ne trouva que le vide et tomba, roulant sur le versant à pic, tout en pierre et en ronce. On entendit un bruit mou puis un gémissement déchirant. « Il n'y a pas laissé sa peau, mais on lui a donné la leçon qu'il méritait, » dit Régora. « Maintenant, il vaut mieux foutre le camp, on ne sait jamais avec les flics. » Ils s'en allèrent par petits groupes en commentant leur chasse et en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi ils étaient très las. Le petit groupe se disloqua. Régora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que t'as sur la tête ?» demanda-t-elle. « Et toi ?» « Toi aussi ?» Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, mais t'en as une figure, et tous blancs sur tes cheveux. Mais toi aussi, t'as une tête épouvantable. » Une inquiétude soudaine, cela n'était jamais arrivé encore à Régora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la cinquantaine environ, les yeux et les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire, il lui manquait deux dents juste sur le devant. Était-ce un cauchemar? Il se retourna, la fille avait disparu. Et puis du fond de la place, à toute allure, trois garçons se précipitèrent sur lui. Ils étaient cinq, huit, ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, allez, tombez-lui dessus au croulant !» Maintenant c'était lui le vieux, et son tour était arrivé. Régora commença à courir de toutes ses forces, mais elles étaient faibles. La jeunesse... Cette saison fanfaronne et sans pitié qui semblait devoir durer toujours, qui semblait ne jamais devoir finir. Et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait plus rien à dépenser.
Like lightning, I don't even care. And the crowd is heavy, I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is you. And nothing else matters. You.
Le veston ensorcelé. Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec laquelle sont coupés les complets de mes semblables. Un soir, pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fis la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était, je le rencontrai pour la première fois et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvai près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé. Je lui fis compliment pour son élégance et j'osai même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Oh, presque personne ne le connaît, dit-il, et pourtant c'est un grand maître, mais il ne travaille que lorsque ça lui chante, pour quelques clients seulement. Ah, de sorte que moi... Oh, vous pouvez essayer, hein, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella. » Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. Il doit être très cher, j'imagine. Je le pense, oui, mais à vrai dire, j'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a 3 ans, il ne m'a pas encore envoyé sa note. Corticella, rue Ferrara, au 17, vous avez dit. Exactement, répondit l'inconnu. Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. Au 17 de la rue Ferrara, je trouvai une maison comme tant d'autres et le logis d'Alfonso Corticella ressemblait à celui des autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs qui était sûrement teint. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désireux de me voir devenir son client. Je lui expliquai comment j'avais eu son adresse, je louai sa coupe et lui demandai de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandai son prix. « Cela ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. » Quel homme sympathique, pensais-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise. Peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais le complet était commandé et en quelques 20 jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayai pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais trop pourquoi, peut-être à cause du souvenir du déplaisant petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril et il pleuvait. Quand j'eus passé mon complet, pantalon, gilet et veste, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston, mais mes papiers, je les place dans la poche gauche, ce qui explique pourquoi ce n'est que 2 heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans la poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. Ah, c'est peut-être la note du tailleur. Non, c'était un billet de 10 000 lires. Je restais interdit. Ce n'est certes pas moi qui l'y avais mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella, encore moins à un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. Est-ce que ce serait un billet de la Sainte Farce? Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un acompte et à ce moment-là, il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston, pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasais la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment-là, je ne saurais en expliquer la raison. Je glissais de nouveau ma main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur? Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui rentrait alors. J'avais dû pâlir comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants avant.
Non, non, ce n'est rien, dis-je. Un léger vertige. Ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit. J'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osai extirper la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 lires. Alors je fis une troisième tentative et un troisième billet sortit. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraîné pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées, comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittai mon bureau et rentrai à la maison. J'avais besoin de rester seule. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermai les portes, baissai les stores et commençai à extraire les billets l'un après l'autre aussi vite que je le pouvais, de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit jusqu'à accumuler des milliards. Mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un tas impressionnant de billets de banque. L'important maintenant était de les dissimuler pour que personne n'en ait connaissance. Je vidai une vieille malle pleine de tapis et dans le fond, je déposai par liasse les billets que je comptais au fur et à mesure. Il y avait largement pour 50 millions. Quand je me réveillai le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver tout habillée sur mon lit. Je m'efforçai de rire en lui expliquant que la veille au soir j'avais bu un verre de trop et que le sommeil m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse. La femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de lui donner au moins un coup de brosse. Je répondis que je devais sortir tout de suite et que je n'avais pas le temps de me changer. Et puis je me hâtai vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien au tout point. Je laisserai le nouveau aux mains de ma femme de ménage. Le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un des hommes les plus puissants du monde, je le cacherai en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres, l'annonce d'un cambriolage survenu la veille occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales, allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par 4 bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters, pour protéger sa fuite, s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions. Comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps? Cela semblait ridicule de le penser. Je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède et plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes. Mais le mirage d'une existence de luxe effrénée m'éprenait, et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune ou une espèce de remords confus? Aux premières heures de l'aube, je sautai du lit, m'habillai et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais, le souffle me manqua. Un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de San Cloro, en plein centre. Entre autres, les coffres d'une grande agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. 2 pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits? Oui, parce que désormais je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait railleusement d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors la tentation revenait. Et alors ma main, c'était tellement facile, se glisser dans ma poche et mes doigts, avec une volupté soudaine, étreignaient les coins d'un billet toujours nouveau. L'argent, le divin argent. Sans quitter mon ancien appartement, pour ne pas attirer l'attention, je m'étais acheté en peu de temps une grande villa, je possédais une précieuse collection de tableaux, je circulais en automobile de luxe et après avoir quitté mon emploi pour raison de santé, je voyageais et parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais de l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'abject et de douloureux. Mais c'était toujours une concordance vague qui n'était pas étayée par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait et devenait de plus en plus vile. Et le tailleur? Je lui téléphonais pour lui demander sa note, mais personne ne répondit. Via Ferrara, on me dit qu'il avait émigré, il était à l'étranger, on ne savait pas où. Tout conspirait pour me démontrer que, sans le savoir, j'avais fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où, dans l'immeuble que j'habitais depuis de longues années, on découvrit un matin une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'elle avait perdu les 30 000 lires de sa pension qu'elle avait touchée la veille et qui avait fini dans mes mains. Assez, assez! Pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, je devais me débarrasser de mon veston. Mais non pas en le cédant à quelqu'un d'autre, parce que l'opprobre aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait? Il devenait indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre-plein herbeux et je me dirigeais droit sur le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le bourg, j'atteignis le gravier de la Moraine. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirai du sac tyrolien l'infâme veston, l'imbibé d'essence et y mis le feu. En quelques minutes, il ne resta que des cendres. Mais à la dernière lueur des flammes, derrière moi, à 2 ou 3 mètres, aurait-on dit, une voix humaine retentit. « Trop tard, trop tard !» Terrorisé, je me retournai d'un mouvement brusque, comme si un serpent m'avait piqué, mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout alentour, sautant d'une roche à l'autre pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien, il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement, libre finalement, et riche heureusement. Mais sur le talus, ma voiture n'était plus là. Et lorsque je fus rentré en ville, ma somptueuse villa avait disparu, à sa place un prêt, un culte, avec l'écriteau « terrain communal à vendre ». Et mes comptes en banque, je ne pus m'expliquer comment, étaient complètement épuisés. Disparu de mes nombreux coffres-forts, les gros paquets d'actions, et de la poussière, rien que de la poussière dans la vieille malle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail, je m'en tire à grand-peine, et ce qui est étrange, personne ne semble surpris par ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour la sonnette de la porte retentira, j'irai ouvrir, et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject pour l'ultime règlement de compte.
Des spaghettis, de la sauce tomate dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. Ça fait 20 ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin. Repenti, j'ai trahi. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Tous les soirs on remplit mon verre et on rigole, on me salit quand je raconte les tours de verre, ma vie à Little Italy. Repenti, j'ai trahi. « amoureux. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Dans les premiers mois de ma planque, j'ai cru que ma vie serait la même, en recréant ce qui me manque de ma Sicile américaine. J'ai aidé quelques connaissances dans leurs querelles de voisinage, deux trois corps imbibés d'essence, quelques accidents de ménage. Repentir, j'ai trahi. Mafioso jusqu'au bout des ongles, je suis devenu le pochetron du coin. Quand les hommes de main de mon oncle recherchent Tony les deux poings. Mes petits voisins, des frères et sœurs, me montraient leur carnet de notes. Je rencontrais leur professeur et prélevais quelques quenotes. Mais aujourd'hui je suis trop vieux, je m'occupe de mes hortensias. C'est étrange comme ils poussent mieux, qu'ai-je bien pu donc enterrer là? Repentir, j'ai trahi. Dans les fourrés, quelque chose bouge, j'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine, une lumière rouge, je t'attendais. Je n'ai pas peur qu'on m'allonge sur mon lit, sur mon cœur une fleur d'hortensia. Je vais revoir le Stromboli, je vais oublier la mafia. Repentir,
merci Catherine, merci de nous avoir remis Luzzati en mémoire, il y a bien longtemps qu'on ne l'avait
pas monde,
lu.
Hein.
C'est un monde, c'est un peu, comment dire, c'est pas joyeux joyeux.
Non,
plus,
ça
hein.
Met un peu mal à l'aise quand même, quand mais même. C'est quand même une très belle écriture. Alors je dois quand même signaler, puisqu'il écrit évidemment en italien, le nom du traducteur qui est une traductrice, Jacqueline Remillet, parce que c'est d'accord. Quand même un beau travail, la phrase est belle, c'est bien écrit.
C'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Il y en a, j'espère que ça donnera envie aux gens de découvrir. Rien que dans le volume Le Cas, il y a une cinquantaine de nouvelles. Et il a écrit bien d'autres volumes. Ouais. Voilà.
Et là, tu as dans entre les mains un volume qui regroupe toutes les nouvelles de Buzzati.
Alors non, ce gros volume ne regroupe, c'est un tome 1. C'est les nouvelles de Buzzati de 42 à 66. Donc ça continue encore. Il y a deux tomes. Voilà.
C'est qu'il a été très prolixe.
Exactement.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette lecture, Catherine. Nous nous retrouverons donc le mois prochain.
Avec plaisir.
À bientôt, chers auditeurs, au mois prochain. Au revoir.